Ensemble sur Calade.
Du lundi au vendredi, de 12h12 à 13h, en direct sur Calade.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Calade. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Nous sommes le mardi 14 février 2023, la journée des amoureux, mais c'est une fête commerciale. Mais quand même, il aurait pu m'acheter des fleurs, mais nous on n'a pas besoin d'une date dans le calendrier pour se montrer qu'on s'aime. Bref, c'est la Saint-Valentin aujourd'hui. Il fait beau dans le Beaujolais, on attend du soleil et des températures autour de 10 degrés environ. Au programme de notre émission, on va retrouver notre conseillère conjugale et familiale Céline Benck. Alors pas forcément pour parler de Saint-Valentin, c'est juste un hasard. Et on va terminer en littérature avec Bertrand Lamure, notre libraire. Mais d'abord, on va parler art avec Fred Bonnat, notre invité du jour. Il expose ses œuvres depuis samedi dernier à la galerie du Passage de l'Ancienne Mairie à Villefranche. Il n'expose pas seul, il est aux côtés de son fils Sacha Bonnat et de la sculptrice Estelle Grandidier. Fred Bonnat, on avait déjà parlé de son travail en septembre dernier. Il exposait à la Maison de la Saône à Belleville. Son travail d'anthropomorphisme avec peau écrit P-E-A-U, comme la peau. Des peintures qui représentent des corps, des parties du corps humain, avec, pour résumer grossièrement, des déchirures, des fissures, comme pour montrer une espèce de fragilité. Il va nous expliquer un petit peu mieux que ça en quoi ça consiste. On va donc parler de ses œuvres, on va parler de son exposition et puis aussi des œuvres de ses co-exposants. Mais d'abord, on commence notre émission en musique. Un père et son fils qui exposent ensemble. C'était l'occasion rêvée d'écouter Cat Stevens, ou Youssouf, suivant comment on l'appelle, avec l'excellent titre Father and Son. Nous sommes ensemble sur Calade, il est 12h14. Merci d'être avec nous.
It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. Was once like you are now, and I know that it's not easy to be calm when you found something going on. But take your time, think a lot. Why, think of everything you've got, for you will still be here tomorrow, but your dreams may not. To explain, when I do, he turns away again. It's always been the same, same old story. From the moment I could talk, I was ordered to listen. Now there's a way, and I know that I have to go away. I know I have to go. Make a change, just sit down, take it slowly. You're still young, that's your fault. There's so much you have to go through. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. All the times that I've cried, keeping all the things I knew inside. It's hard, but it's harder to ignore it. If they were right, I'd agree. But it's them they know, not me. Now there's a way, and I know.
C'était Youssouf sur Kalad avec Father and Son.
Ensemble sur Kalad.
Allez, notre invité du jour, c'est Fred Bonnat, artiste peintre.
Oui, bonjour.
Bonjour et merci d'être avec nous.
Merci, merci à vous.
Vous exposez jusqu'au 17 février prochain à Villefranche, à la galerie de...
De l'ancienne mairie, c'est ça.
De l'ancienne mairie, votre œuvre. C'est toujours anthropomorphisme le...
Oui, je les ai appelés les anthropomorphes parce qu'il y a vraiment cette idée de jeu de mots avec cette peau. Donc déjà la peau qui l'accueille, donc la toile de lin, plus la peau avec le papier de soie qui est peint à l'huile et c'est marouflé ensuite sur la peau. Donc c'est vraiment ce jeu de mots de cette idée de peau, de parce que je voudrais que mon travail se rapproche de quelque chose de charnel en fait.
Et alors moi ce qui m'a étonné c'est que c'est de la peinture. Et quand on l'a aperçu que j'ai eu des œuvres, j'avais l'impression que c'était plutôt un collage qui avait été déchiré.
Mais en fait, c'est du collage.
C'est du collage.
En fait, je peins sur des feuilles de soie, sur des grandes feuilles de papier de soie, à l'huile. Et ensuite, je le déchire et je l'encolle ensuite sur le papier ou sur la toile.
D'accord. C'est un travail que vous faites depuis plusieurs années.
En fait, j'ai commencé ce travail-là quand j'étais au Beaux-Arts. Je travaillais déjà sur l'altération du corps, donc en sculpture, en dessin, en peinture. Et j'ai trouvé cette technique, en tout cas c'est une technique que j'ai apprivoisée, on va dire, tout au long de ces années, avec les médiums, etc. À la base, c'était un accident. Je faisais beaucoup de gravures.
Ouais.
Et sur les gravures, on protège les gravures avec du papier de soie. Et un jour, de l'encre qui est inscrite. Et je me suis dit, ça serait peut-être intéressant de travailler directement ce papier de soie. Et donc, j'ai cherché une technique qui adhérait le mieux avec ce papier pour raconter justement cette fragilité de ce papier qui se déchire quand on le travaille, quand on le froisse. Et du coup, ça m'a donné l'idée de décliner ce travail-là par la suite, en 2004, sur le corps humain, en fait.
D'accord.
Comme pour, justement pour parler de la fragilité du corps, mais en même temps de sa puissance représentative.
Ouais, il y a c'est des corps qui ont l'air forts,
ouais.
Mais en même temps, ils sont déchirés, ils sont abîmés.
C'est ça. Ça part un peu aussi de cette idée du torse du Belvédère qu'on a récupéré. Donc le torse du Belvédère, quelque part, c'est un buste, une sculpture qui a été réalisée par trois sculpteurs à l'époque. Mais ce qui est intéressant, c'est le temps qui a fait aussi son œuvre avec l'érosion, etc. Donc c'est une sculpture où il y a plein de manques. Et c'est ce qui est intéressant, en fait. C'est se dire que le temps marque aussi peut intervenir directement sur une peinture ou sur une image, un petit peu comme une vieille fresque antique qui se fissure et on fige un moment, quoi.
Et le travail que vous faites, ça consiste à enlever, vous dessinez un corps entier et ensuite vous en enlevez des parties comme un sculpteur qui va tailler dedans.
Ouais, c'est ça en fait. J'ai mon rouleau de papier de soie, je fais le corps plus ou moins dans son entier, mais dès que je le travaille, parce que je travaille à la main, donc je graisse bien le papier et je travaille à la main, et tout de suite, en fait, il va y avoir des déchirures, et je travaille avec ces déchirures-là, et peut-être une déchirure qui est peut-être plus intéressante, je vais essayer de travailler autour et de décliner, de partir autour de ça pour raconter quelque chose. Et... en fait, les déchirures se font du début jusqu'à la fin, même au niveau de l'encollage à la fin. Parce qu'il y a plusieurs étapes dans mon travail. Il y a aussi une étape de séchage, de fixation et après d'encollage. Et à chaque fois, tant que ce n'est pas fini d'encoller, je ne sais pas ce que ça va donner.
D'accord.
Parce que parfois même le papier peut se rebiffer et ça donne des choses inattendues. Et c'est ce qui est intéressant, en fait. C'est le hasard qui va provoquer et qui va créer aussi quelque part mon œuvre.
Il y a eu des surprises comme ça, ou un jour, des œuvres où vous avez été totalement surpris par le résultat, et puis, on garde, c'est super.
Oui, tout à fait, ouais. Ou au contraire, il y a eu on va dire des mésaventures, parce que quand j'en colle derrière le papier de soie, plus c'est grand, plus ça devient très flexible, d'où justement cette sensation de peau, parce que du coup le papier qui est sec au départ se tend vraiment comme une peau, et c'est là que ça va se déchirer de plus en plus, parce qu'on va maroufler sur la toile. Mais oui, j'ai eu des surprises, des manques surtout, qui ont provoqué quelque chose, enfin une certaine beauté au niveau du corps, et c'est exactement ce que je recherche.
Et il y a le travail des couleurs aussi. Vous choisissez une teinte à chaque fois pour les œuvres. Vous le travaillez comment, ce choix de...
Alors, avant de travailler mes images, je les travaille un petit peu sur ordinateur. Je découpe déjà un petit peu sur ordinateur au niveau de l'image ce que ça pourrait donner. Et c'est là que je vais commencer à amener les couleurs. Je fonctionne souvent avec quatre couleurs, donc des ocres jaunes, des ocres rouges et des oxydes de vert ou de bleu. Et c'est vraiment ces quatre couleurs-là qui vont revenir. Je travaille, on va dire, d'une manière... Enfin, ce sont des monochromes, quelque part.
Ouais.
Quand on est plus dans les ocres, on est dans quelque chose de plus vivant, si je peux dire.
Plus
on
veut
dire
chaud,
que le corps est plus chaud et le corps il est lancé, etc. Et au contraire, quand je travaille le vert et le bleu, c'est des corps un peu plus statiques qui se rapprochent plus de la sculpture, en fait.
Ouais, ça fait penser à des statues. Ça évoque très vite des statues grecques, pour moi.
Mais en fait, je pars vraiment d'images antiques, de fragments de tableaux ou de statues antiques. Et je m'inspire de ces corps, parce que justement ces corps antiques, c'est déjà une image universelle, où tout le monde peut se rattacher. Il y a déjà aussi une certaine beauté dans ces corps, et justement pour pas reprendre un canon un peu plus, même si parfois mes corps sont violents et je m'enlève un petit peu de ces corps, de ces canons de beauté, on va dire antiques, c'est ce qui m'intéresse, en fait, partir de l'antique pour faire quelque chose de plus contemporain avec cette idée de peau.
Ça vient d'où, cette passion pour le corps, déjà dans l'art antique, les sculptures antiques? Pourquoi est-ce qu'ils représentaient tout le temps aussi souvent des corps, des Apollons, des déesses magnifiques? C'était quoi l'idée à la base?
C'était une représentation des dieux, je pense. Ouais. C'était travailler sur la perfection du corps en faisant des représentations de Dieu, etc., de Poséidon. Enfin, il y a des sculptures, par exemple, comme le Thor du Belvédère, ou même le Laocoon, qui pour moi sont sublimes, en fait. Il y a vraiment une beauté qui est représentée, et c'est ce qui m'intéresse au niveau des muscles saillants, etc., des côtes. C'est à partir de là où je peux me dire, là, j'ai de la matière pour pouvoir commencer à travailler, en fait.
Et vous avez cette technique particulière, vous avez essayé d'autres techniques pour...
Oui, j'ai essayé d'autres techniques, comme je disais, je faisais de la gravure, je fais de la peinture, j'ai fait de la sculpture aussi. Mais c'est vraiment ma marque de fabrique, cette technique que j'ai vraiment depuis 2004 et que je décline vraiment jusque-là, quoi.
Là, vous exposez, donc, on le disait, à Villefranche, donc, au passage de l'ancienne mairie. En centre-ville, et vous exposez avec votre fils.
Oui, tout à fait, oui.
Alors lui, il fait quoi? Il dessine quoi?
Alors déjà, l'idée, si je peux en parler, c'est que ma avant-dernière expo à la Maison de la Saône, Christine Forget, qui me prête la galerie de la mairie, m'a proposé, elle a vu mon fils Sacha, et puis elle lui a parlé, et mon fils lui a montré un petit peu ce qu'il faisait, elle a trouvé ça intéressant, et elle lui a dit, mais pourquoi t'exposes pas avec ton père? Et c'est pas tombé dans la règle d'un sourd. Et donc du coup, j'ai contacté Christine en lui disant c'est toujours ok, parce que moi je veux le faire travailler pour valoriser son travail.
Ouais.
Et donc c'est un travail qui part d'esprit de manga. Et puis là, il a fait une petite série un peu plus personnelle sur des petites toiles. Mais s'il veut en parler, juste...
Hein, il est avec nous en studio, je ne sais pas, non. Il s'est mis loin des micros.
Ses toiles.
Sacha, bonjour.
Bonjour.
Et merci d'être là et d'accepter de nous parler. Moi, j'ai vu quelques dessins. Alors, ça m'a beaucoup parlé, parce que c'est des mangas que j'ai lus. J'ai reconnu des personnages que j'aime beaucoup. Et puis il y a des dessins avec des personnages que j'avais jamais vus, ou des choses que j'avais jamais vues. C'est des créations personnelles, du coup.
C'est ça. Il y avait vraiment des petits cadres en carré C'est mes propres créations à moi. En fait, j'ai voulu représenter un petit peu le regard que les autres auraient pu avoir sur nous en différentes manières. Et c'est vraiment 8 petites toiles qui représentent une histoire. Déjà dans leur manière... en fait, chaque toile ont un personnage ou plusieurs. Et leur position représente un petit peu leur état d'esprit, un petit peu comment ils sont en ce moment. Et j'ai fait comme des yeux qui représentent justement les autres pour montrer un petit peu le regard que les autres nous jettent,
ouais.
le jugement. Par exemple, je fais l'exemple d'un cadre en particulier. C'était un homme qui portait un carton sur la tête, qui souriait avec deux trous dans les yeux, mais il pleurait. Et juste au-dessus du carton, donc de lui, il y avait des yeux qui saignaient sur lui et qui le sang tombait sur le carton, puis ensuite sur la main qui était sur son épaule.
Mmh. C'est le poids du regard des autres
c'est ça.
Qui pèse sur lui. C'est tout à l'encre noire, c'est ça ?
C'est ça, que au marqueur noir.
Au marqueur noir.
Et parfois, je mets un petit peu de stylo rouge aussi.
Et l'apprentissage du dessin, du coup, ça s'est fait via peut-être une passion pour les mangas et...
Alors, à la base, j'ai commencé en 2020.
Ouais.
Pendant le confinement, j'avais demandé à mon père de me faire un dessin de manga. Puis, il m'a dit de m'entraîner et que j'arriverais à le faire moi-même. Donc, ce que j'ai fait, c'est que chaque soir, pendant un mois, je faisais que de dessiner un dessin chaque soir. Et j'ai vu que j'avais un petit talent dans le dessin et que je progressais même au fur et à mesure. J'ai continué encore et encore, jusqu'à avoir le niveau que j'ai aujourd'hui et pouvoir, oui, faire même mes petites créations à moi. Ouais. J'ai vu que dans la génération d'aujourd'hui, les jeunes sont souvent, comment je pourrais dire, mal dans leur peau. Et j'ai voulu représenter ça pour parler d'eux un petit peu.
Ouais. Et partir de ces mangas où c'est des histoires avec des personnages et c'est très représentatif, les dessins. Et là, créer des choses plus abstraites, du coup, c'est une envie personnelle, ça vient d'où ?
Oui, vraiment, c'est... En fait, j'avais un petit cahier avant que je sache que j'allais faire une expo. J'avais un petit cahier où je m'amusais à faire des petits dessins d'horreur ou comme ça, de regard des autres. Et un jour, mon père l'a vu et il m'a clairement dit que...
C'est pas mal.
C'est pas mal.
Ah, tout à fait.
Et que je pouvais en faire même plusieurs et que ça pouvait être même mes propres productions. Du coup, j'ai continué à créer et à en imaginer d'autres.
Ah, c'est génial. Et exposer ensemble, du coup, ou juste déjà exposer et montrer son travail à d'autres personnes, c'était samedi où il y a eu le vernissage.
Ouais, tout à fait, c'était samedi, ouais.
Le regard du public sur son travail, ça se passe comment, du coup ?
Au début, c'était un petit peu stressant.
Ouais.
On me posait des questions, je savais pas trop comment répondre, c'était la première fois pour moi. Puis on s'y fait, au fur et à mesure que des personnes viennent et reposent les mêmes questions, on s'y habitue et du coup on peut mieux répondre, même être plus à l'aise. Du coup, je sais pas comment je pourrais dire, les questions étaient souvent les mêmes, du coup je savais quoi répondre.
Il y a une prise de confiance et puis j'imagine que c'est... C'est valorisant de voir des gens voir son travail, etc. Ouais. Et en tant que papa, quand on voit son fils exposé, on est comment ? On est content ? On est content ?
Ah bah on est plutôt fiers. Hein. Non, non, en fait, c'est vraiment cette idée d'exposer père et fils. Moi, depuis septembre, c'est dans ma tête et j'avais vraiment envie de valoriser son travail pour qu'il prenne confiance en lui, etc., par rapport à son travail, et surtout ses dernières productions, justement, sur ses petites toiles, où il présente des choses plus personnelles, et c'est vraiment un travail graphique. Et c'est intéressant, parce que du coup, même s'il s'inspire de portraits, de personnages de manga, là, il s'en détache de plus en plus par rapport à son travail. Et c'est ce qui est intéressant. Et quelque part, il commence à avoir un travail artistique aussi, avec une démarche derrière artistique.
Et qui lui est propre.
Exactement.
Et puis, à la galerie, il y a également le travail d'Estelle
Grandidier, oui, la sculptrice. Oui.
On peut en dire un mot ?
Bien sûr, oui. Donc, elle fait des sculptures en céramique. Et donc, c'est pareil. Donc elle a déjà exposé juste la semaine avant avec Béatrice Cosson. Et elle m'avait demandé pour prolonger cette expo. Et quand j'ai vu son travail de corps, j'étais très intéressé parce que je trouvais qu'il y avait un beau mariage aussi avec mon travail. Et donc il faut venir voir l'exposition pour constater tout ça.
Ouais. On peut venir voir ça quand ?
Jusqu'à vendredi soir, donc 17 inclus. Donc c'est toutes les après-midi de 14h à 17h. Et moi j'y serai aujourd'hui, vendredi, et Estelle Grandidier aussi. Très bien. Sacha Bonnat aussi.
Parfait. Eh bien,
et justement, si je pouvais me permettre, n'achetez pas des fleurs, venez acheter des toiles pour la Saint-Valentin, ce sera très bien.
Ouais, c'est une excellente idée.
Achetez de l'art.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Tous les deux d'être venus nous parler de votre travail, donc Fred Bonnat et Sacha Bonnat. Donc effectivement, on peut venir vous voir jusqu'à vendredi à Villefranche. Très bonne journée.
Merci beaucoup. Au revoir.
Ensemble sur Calade.
Allez, un peu de musique, on a beaucoup parlé de corps du coup avec le travail de ces deux artistes. On écoute Iseult qui nous chante corps.
Je me fais du mal depuis des années. La main sur les yeux, pas envie de la retirer. Y'a pas de place pour les fables. Y'a pas de place pour les regrets. Sur le sol, relève-toi, faut pas déconner. J'ai ces bruits dans ma tête et j'aimerais que ça cesse, mais en vain. J'ouvre un peu les yeux, des couleurs, des photos me reviennent. Tous ces bruits dans ma tête, faut que ça cesse. J'ai perdu la tête. Le regard des gens, j'en ai que faire. Qui sont-ils pour me juger? Un pardon à mon père. Insolente, je l'étais. Dans les yeux de mon frère. Ouais, des claques, ils sont ébouffés. Sur les joues de ma mère, des rivières se sont écoulées. J'ai ce bruit dans ma tête et j'aimerais que ça cesse, mais en vain. J'ouvre un peu les yeux, des couleurs, des photos me reviennent. Tous ces bruits dans ma tête, faut que ça cesse. J'ai perdu la tête. Advienne, je retrouverai les clés de la raison.
J'ai perdu la tête. Quoi qu'il advienne, je retrouverai les clés de la raison.
C'était Isolde sur Calade avec le titre Corps.
Ensemble sur Calade.
Mots croisés.
Allez, avec nous notre conseillère familiale et conjugale. Conjugale et familiale.
Oui, plutôt dans ce sens-là.
C'est Céline Bell. Bonjour.
Bonjour Mathieu.
Et aujourd'hui, on va parler d'émotions. Pourquoi parler des émotions ?
Eh bien, parce que les émotions prennent beaucoup de place dans notre vie. Et on ne sait pas toujours quoi en faire, en fait. Donc, je trouve que c'est important de pouvoir en parler.
Et on n'en parle pas beaucoup, finalement. Alors, quel regard est-ce qu'on porte sur nos émotions ?
Alors, tout dépend un peu de l'éducation qu'on a reçue. Mais c'est vrai que ce qui transpire un petit peu dans la société dans laquelle on vit, c'est que on a l'impression qu'il faut souvent les taire ou les cacher. Mmh. Il y a des choses, des phrases un petit peu toutes faites qu'on peut entendre. Allez, pleure pas, ça va passer. Ou bien, mais non, mais c'est les bébés qui pleurent. Ouais. Ou bien, un garçon, ça pleure pas. Ce genre de choses que les hommes de 50 ans aujourd'hui ont entendu sûrement quand ils étaient petits. Ou bien, sois fort. Des choses comme ça, voilà. Et du coup, ça nous fait croire que ce qui est émotionnel, ça peut être puéril. Et que c'est pas intéressant, en fait. Mmh. Et qu'il faut mettre... on a l'impression qu'il faut mettre un couvercle sur ce qu'on ressent.
Ouais.
Et alors, la société, c'est vrai qu'elle va glorifier davantage la maîtrise de soi, la maîtrise de son image, le contrôle. Ouais. Là, il faut se montrer fort, il faut se montrer toujours au top. Et c'est sûr que là, dans cette vision des choses, les émotions, elles ne sont pas forcément bienvenues.
Ouais. Il y a des émotions, oui, il faut les garder pour soi, on ne partage pas ça.
On a l'impression que c'est ça, qu'il faut les garder pour soi.
Alors comment ça marche les émotions concrètement ?
Alors les émotions, on dit qu'il y a des émotions agréables,
ouais.
la joie, par exemple, et les émotions qui sont plus désagréables,
ouais.
Comme la peur, la tristesse et la colère. En fait, on dénombre quatre grandes familles d'émotions, la joie, la tristesse, la peur et la colère.
Et le dégoût, mais ça me fait penser à ce que vous dites au film
Vice Versa,
ils sont cinq dans la tête de l'enfant.
C'est ça, il y a le dégoût aussi dans la tête de la petite fille dans Vice Versa.
Ouais.
Le dégoût, c'est vrai qu'on on le prend pas généralement dans les quatre familles, mais on peut aussi le rajouter. Mais...
Et du coup, il y a quatre familles, il n'y en a qu'une seule qui est chouette. Enfin, il y a la joie et il y a trois familles, peur, la colère et la tristesse qui sont plutôt négatives.
Alors oui, plutôt négatif, mais on va voir qu'elles ont un rôle qui est vraiment très intéressant. Alors il n'y a qu'un terme pour chaque famille, mais ce qui est intéressant de voir, c'est que c'est bien plus nuancé que ça. Et il y a énormément de mots pour décrire la joie, il y a énormément de mots pour décrire la peur, la tristesse et la colère. Et ça, on peut aller sur Internet et taper « liste des émotions ». Et il y a toute une liste très intéressante qui permet d'affiner justement et de pouvoir voir quelle est vraiment l'émotion que je ressens. Parce que c'est pas aussi grossier que ça. Ah, j'ai peur, je suis triste ou je suis en colère. Ça peut être beaucoup plus fin que ça. Et avoir aussi des degrés d'intensité qui sont plus ou moins forts.
D'accord.
En fait, l'émotion, c'est une réaction physiologique qu'on ressent dans le corps à un événement qui est extérieur. Si j'ai peur des chiens et que je vois un énorme chien tout baveux qui me saute dessus, je vais avoir une réaction physiologique qui va faire que je vais soit me paralyser et pas bouger, soit prendre la poudre d'escampette et courir tout en tremblant. Par exemple, et ça c'est tous les jours en fait, il y a les portes du train qui se ferment devant vous, vous allez ressentir de la frustration, de l'anxiété parce que vous allez être en retard à votre rendez-vous. Un enfant qui vous offre un joli dessin, ben, ça va être de la tendresse, de la joie. Un supérieur qui va crier sur un membre de l'équipe, ben, on va être exaspéré, on va ressentir du dégoût, là, pour le coup. La réussite, un examen, ça va être de la satisfaction. Le bébé qui pleure encore, on va être découragé, on va être inquiet, on va être agacé. En fait, il y a mille et une façons de qualifier notre réaction à quelque chose d'extérieur. Et c'est ce qui en fait, c'est un déclencheur. Il y a un déclencheur extérieur qui va provoquer ça. Et il va y avoir des signes corporels. Je vais rougir, je vais pleurer, froncer les sourcils, trembler. Et ça, c'est important de connaître ses propres signes et aussi de pouvoir lire sur le visage des autres ou sur le corps des autres ce qui se passe en eux.
Et à quoi ça sert de ressentir des émotions ?
Alors, les émotions, elles ne sont pas là pour nous embêter. Ce sont des indicateurs, des très bons indicateurs qui vont nous pousser à l'action. Par exemple, si je ressens du stress parce que je dois présenter quelque chose à mon équipe, la fréquence cardiaque va augmenter, je vais sentir le cœur qui va battre, la pression artérielle, le foie va libérer plus de sucre et ça va me redonner de l'énergie. Donc l'émotion, elle va servir à quelque chose. C'est aussi ce circuit qui met en pause notre système digestif et nos récepteurs de la douleur pour rediriger tout notre corps vers la réponse à apporter quand il y a un danger.
Ouais.
Donc il y a vraiment une utilité. À l'inverse, la joie va libérer de la dopamine qui va irriguer le corps et va lui redonner un bon coup de fouet. Donc en fait, les émotions, ce sont le filtre qui permet de filtrer les stimuli extérieurs et qui va mettre le corps en action pour y répondre. Alors c'est une aide pour mieux se connaître.
Ouais.
Ça c'est évident. Ça nous permet de comprendre ce qui est important pour nous. Et deuxièmement, c'est un indicateur de besoin. Et ça, c'est vraiment important de le comprendre. C'est-à-dire que les émotions vont nous aider à identifier lorsque nos besoins ne sont pas comblés. Par exemple, si mon ado me parle et que je suis en train de consulter mon téléphone, il pourra se mettre en colère et commencer à être agressif avec moi. C'est pas parce qu'il a mauvais caractère, hein, enfin peut-être, mais en tout cas, là, dans ce cas-là, je pense pas. C'est juste qu'en fait, qu'il a besoin d'être écouté.
Ouais.
Donc derrière une émotion inconfortable, il y a souvent un besoin qui n'est pas reconnu et pas satisfait. Si je suis triste, j'aurai besoin d'être...
De réconfort,
d'être consolé, ouais, d'être réconfort. Si j'ai peur, ben j'aurai besoin d'être rassuré.
Ouais.
Si je suis en colère, j'aurai besoin d'être apaisé. Et donc, c'est important d'en avoir conscience, parce que l'émotion, souvent, on s'arrête juste à « je suis en colère », c'est tout. Alors qu'en fait, si on va au-delà, « tiens, qu'est-ce qui m'a mis en colère ? C'est quoi mon besoin ?» Et de pouvoir déjà rien... Le fait d'en parler, ça permet de libérer et de laisser l'émotion... vivre son cours pour après se dissiper.
Et y répondre correctement.
Voilà.
Alors quand est-ce que les émotions nous submergent ? Quand est-ce qu'on n'arrive plus à les gérer ?
Alors c'est ça le problème, c'est que quand ça nous submerge, on est un peu perdu et nos émotions prennent toute la place dans ces cas-là. Elles nous font perdre nos moyens et nous font perdre le contrôle sur la situation. Et c'est pourquoi on cherche souvent à mettre le couvercle dessus en pensant que c'est comme ça qu'on va les dompter, un peu comme un animal sauvage, ou bien on va les nier.
Donc il ne faut pas ignorer ces émotions-là. Comment est-ce qu'il faut réagir quand on ressent une émotion trop forte ?
Alors comment il faut faire ? Déjà, il faut l'identifier, dire tiens, qu'est-ce qui se passe en moi ? Pouvoir affiner, justement, comme je vous disais tout à l'heure, peut-être prendre une liste d'émotions et puis essayer d'affiner. Est-ce que c'est de la déception ? Est-ce que c'est de l'anxiété ? Est-ce que c'est de la rage ? Est-ce que... Voilà, c'est assez fin. Ça va être important de faire le vide et d'accueillir ce qui nous traverse dans notre corps. Ça va être important aussi d'exprimer ces émotions. C'est sûr qu'on dit souvent que la colère est mauvaise conseillère. Par exemple, si on est en colère et qu'on est pris dans une discussion, la discussion elle aura un autre tour que si je laisse un peu l'orage passer et que je peux en reparler le lendemain, par exemple. Mais c'est sûr que c'est pas facile d'exprimer clairement ses émotions, déjà pour soi-même et encore plus pour l'autre. Mais c'est important que nos ressentis ils puissent ne pas nous isoler des autres. Parce que ça va au contraire permettre de créer une passerelle avec l'autre, de lui dire, tu vois, là, tout à l'heure, j'étais pas bien, j'étais en colère, parce que quand tu as dit ça, chez moi, ça a généré telle chose. Et ça crée une passerelle avec l'autre, parce que je lui explique un peu ce qui se passe chez moi, sans l'accuser de tous les maux de la terre. Et là, ça va être important, on en a déjà parlé par rapport au conflit, mais c'est important d'utiliser le « je ». de parler en jeu en disant ben voilà, moi je me sens comme ça, plutôt que de dire ras-le-bol, tu fais toujours ça, et donc l'autre se sent accusé.
Ça, j'ai essayé de le faire. C'est hyper difficile des tournures de phrases qu'on a tout le temps dit, tu fais ci, tu fais ça, ça m'énerve, de réussir à changer la phrase. Des fois, il faut réfléchir 3 minutes avant de réussir à faire
c'est une ça, phrase entière. C'est ça. C'est un apprentissage qui demande du temps, d'essayer d'être plus clair avec soi-même déjà, de dire ben, qu'est-ce qui se passe chez moi. Et je me sens vraiment agacée quand il me dit ça. Voilà, et du coup mais il faut s'entraîner, hein, c'est comme un sport.
Mais j'ai l'impression que ça en vaut la peine parce que ça marche bien.
Alors le corps a un rôle aussi important à jouer, c'est-à-dire que on peut aussi laisser l'émotion traverser notre corps sans avoir peur, si on tremble, de laisser le tremblement passer pour que l'émotion soit régulée. Ça, c'est vraiment important. Et du coup, identifier ses besoins. Les besoins, on va essayer de les satisfaire. Si j'ai besoin de réconfort, je vais, moi, prendre en charge mon propre besoin. Mais je peux aussi demander à l'autre de l'aide.
Ouais.
Et ça, c'est auprès d'un enfant, par exemple, un enfant qui pique une colère. Essayer de voir qu'est-ce qui se passe en lui. Qu'est-ce que ça fait dans son corps. Et puis, quel besoin il a. Tu as besoin de quoi quand tu cries comme ça? Et ça peut être juste, j'ai besoin d'un câlin. Et on fait un câlin, et voilà.
Et déjà, ça va mieux.
Ça va beaucoup mieux.
En général, ça règle pas mal de soucis, les câlins.
Voilà, donc en fait, c'est un apprentissage qui demande du temps. Et c'est vrai que si on a 40 ans et qu'on ne nous a jamais parlé d'émotions et qu'on ne sait pas du tout ce que c'est, ça, je vois des personnes dans mon cabinet qui peuvent le dire. Hein, pour eux, c'est juste pas possible de lire en eux ce qui se passe. C'est des choses qui peuvent s'apprendre avec le temps, heureusement.
Ouais, et puis d'assumer, juste déjà, rien que cet exercice d'assumer les émotions, c'est ce que vous disiez au début, on a beaucoup appris à les réprimer, à les ignorer plutôt que de les vivre, quoi.
Tout à fait.
On a encore appris beaucoup de choses, merci beaucoup.
Merci à vous.
À bientôt.
Au revoir.
Ensemble sur Calade.
Allez, un peu d'amour en musique, on écoute Louise Attaque avec Amour.
Mon père et je ne sais pas comment. Oh amour, ma mère et tous ses sentiments. Oh amour, mon frère et ma sœur évidemment. Oh amour, serait-ce un jeu d'enfant à crier tout le temps. Oh amour de longue date qui s'étend, qui s'étend. Oh amour avec un grand A, c'est long, c'est long, c'est long. Et amour, mon amulette du couture excellent. Amour, serait-ce un jeu d'enfant à crier tout le temps. Amour, mon père et je ne sais pas comment. Oh amour, ma mère et tous ses sentiments. Oh amour, mon frère et ma sœur évidemment. Oh amour, serait-ce un jeu d'enfant à crier. Oh amour de longue date qui s'étend, qui s'étend. Oh amour avec un grand A, c'est long, c'est long, c'est long. Et amour, mon amulette du couture excellent. Amour, serait-ce un jeu d'enfant à crier. Oh amour, la première fois me ressent plus jeune assez. Pour la dernière fois, oh l'amour de ce doux, c'est pas qui glisse, pas les parfois. Et amour, reste un jeu d'enfant à crier. Oh amour, mon père, et je ne sais pas comment. Oh amour, ma mère, et tous ses sentiments. Oh amour, mon frère et ma sœur, évidemment. Oh amour, reste un jeu d'enfant à crier tout le temps.
Ah oui, les chansons d'amour de la Saint-Valentin, c'est pas obligé d'être mélodramatique.
Vous connaissez Huysmans ?
Non, monsieur.
C'est un excellent auteur, je l'aime beaucoup.
Moi aussi, j'aimerais bien avoir le temps de lire, une fois de temps en temps.
Ils savent pas lire, ils risquent pas de retrouver un bouquin.
Ensemble sur Calade, l'humeur littéraire du libraire.
C'est de la littérature.
C'est important, la lecture.
On allait chercher un vieux jingle, là, dis donc.
Ouais, là.
On est donc avec Bertrand Lamure, notre libraire. Bonjour.
Bonjour, Mathieu, bonjour à tous.
Bon, vous allez bien ?
Eh bien, bien.
Très bien, en fait, oui. Allez, soyez, allez, très faisons bon. Simple, ça c'est va
parfait.
Bien.
Alors, de quoi est-ce que vous allez nous parler aujourd'hui?
Ben oui, j'ai pas le choix.
Vous êtes coincé, là.
Ah, je suis coincé, voilà. Bon, ben donc, on y va. On va parler... on va parler de meurtre, de suicide.
J'attendais pas ça aujourd'hui, mais pourquoi pas.
Mais non, nous allons parler de Gioconda d'abord. J'en ai déjà parlé. Je sais que sur ces ondes, j'en ai déjà parlé, mais on ne peut pas parler de ce fameux 14 février si on ne parle pas de Gioconda, qui est la plus belle histoire d'amour. Première histoire d'amour entre deux jeunes voisins, Gioconda et son voisin. Donc, on est à Thessalonique en Grèce en 1943, et c'est d'une vraie beauté d'un auteur qui est décédé depuis déjà un moment, puisque c'est un texte qui date des années 70, mais qui est éternel. Attention. Et l'auteur, c'est Nikos Kokantzis, qui était donc évidemment un grec, Gioconda à lire. Il n'y a pas le choix, c'est comme ça. Je me suis dit, bon, bah, Gioconda, ok, on parle là-dessus, mais moi j'avais envie de parler d'autres histoires d'amour un peu. Alors, par exemple, moi, un texte qui m'avait beaucoup plu, et qui était une belle histoire d'amour, entre Satoru et Nana. Alors, Satoru, c'est un jeune japonais, et Nana, bah, c'est le chat qui l'a récupéré, un chat de gouttière qui s'était blessé, qui va le récupérer, et qui vont connaître une super histoire d'amour. À un moment donné, il faudra qu'ils s'en séparent. Je m'en ai tout, c'est bien simple. Et on ne sait pas pourquoi, mais c'est très beau, très belle. Et c'est une histoire d'amour, attention.
D'accord.
Alors, donc ça, c'était les mémoires d'un chat de Hiro Arikawa. Alors, autre histoire d'amour, très très belle. Ça vient de sortir ici d'un auteur finlandais, mais d'origine albanaise, qui s'appelle Pashtim Stasovski. Et le titre, c'est Bola. Alors, ça se passe juste avant la guerre du Kosovo, donc en 95. Mmh. Et ça va être... il y a un homme qui est étudiant en lettres, qui est un jeune marié, et qui, dans un café, tombe totalement amoureux d'un autre jeune homme, et qui est serbe, lui.
D'accord.
Et donc, on a une passion totalement dévorante entre ces deux hommes. Mais qui dit passion dévorante dit que les hommes ne sont pas toujours d'accord parce qu'il y a une petite guerre qui se prépare. L'un est albanais, l'autre est serbe. Voilà, tout le monde a compris un peu le principe.
Ouais.
Et donc, ce jeune albanais, Arsim, va devoir quitter avec sa femme la Finlande. Et tout le reste de sa vie, il va essayer... de retrouver effectivement cet amour qu'il a dû abandonner, etc. C'est une très belle histoire d'amour. Alors c'est pas évidemment une histoire d'amour avec un prince charmant, ça se termine bien avec des roses rouges. C'est pas tout à fait le cas, mais c'est très très beau.
Bola 2.
Ça s'appelle Bola, B-O-2-L-A, et c'est de Pashtim Statovski, aux Argonautes.
Très bien. C'est noté.
Autre histoire d'amour, parce que j'ai trouvé que c'était un très beau texte, donc de Jean-François Beauchemin. Pareil, sur Radio Calade, j'ai parlé certainement beaucoup de fois du Jour des Corneilles, qui était un livre extraordinaire de Jean-François Beauchemin. Et là, il en sort un qui s'appelle Le Roitelet. Le Roitelet, comme l'oiseau. Et c'est ni plus ni moins un homme, un écrivain, qui parle de son frère qui est schizophrène. Et c'est une très très belle déclaration d'amour à son frère, qu'on va suivre avec toutes les difficultés que la maladie a créées, mais aussi tout le bonheur d'être ensemble au cours de la vie, surtout quand les parents sont partis. Et c'est un texte magnifique sur l'amour de deux frères. Quand même, parce que l'histoire d'amour, faut pas exagérer, ça se termine aussi mal.
Oui, en général.
En général. Et là, Rosalie Roy-Boucher
qui est une Québécoise qui, aux éditions du Bouclard, décide, parce qu'elle en a marre, elle s'est fait, Alice, elle s'est fait larguer, comme elle dit, d'un fucking Fabrice Picard, puisqu'elle est québécoise, et elle décide de faire la route de Compostelle. Voilà, tout simplement pour essayer d'échapper à ce donc fucking Fabrice. Mmh. Et elle va faire ce chemin de Compostelle, et c'est très drôle, c'est très enlevé. Et attention, peut-être qu'elle rencontrera l'amour sur le chemin. Et puis, pour terminer, eh ben, il fallait quand même terminer par Volupté. Volupté, c'est ces petits textes que la BNF, donc la Bibliothèque Nationale de France, édite, avec de belles estampes, de belles gravures. Alors, c'est des gravures à ne pas mettre donc au moins de 21 ans. Allez, même 18 ans, non, 21 ans. Parce que voilà, c'est mignon, on va dire, pour faire simple. Mais alors surtout, ce qui est génial, c'est qu'en fait, ces gravures, donc on a bien compris que c'est des gravures érotiques, qui sont, ma foi, aussi de très belles. En fait, elles étaient toutes classées dans l'enfer. Parce qu'à la BNF, dans le catalogue de la BNF, jusqu'en 1960, il y a eu une partie, un catalogage, où c'était l'enfer. Et en fait, on mettait dedans toutes les publications, toutes les illustrations qui étaient érotiques, douteuses. Voilà. Et alors, c'est absolument génial qu'aujourd'hui, ben voilà, l'enfer est libre. Les portes de l'enfer se sont ouvertes.
Merveilleux.
Mais n'est-ce pas?
Et on les retrouve où alors, ces œuvres de l'enfer?
Alors, donc, c'est publié donc BNF Édition. Ouais. En plus, c'est bien parce que c'est des petits textes qui ont vraiment de qualité, qui sont vraiment pas chers. Là, par exemple, c'est des petits textes à 6,90. Et dedans, on a vraiment des choses absolument magnifiques. Alors, sur Volupté ou sur d'autres thèmes, hein, y a plein de thèmes. Mais là, aujourd'hui,
il
n'avait pas le choix. Ouais. Il fallait faire Volupté. Donc voilà, donc vous avez le choix effectivement de partir d'abord à Thessalonique avec Gioconda. Mmh. Donc voilà, ou sur les chemins de Saint-Jacques si vous avez rencontré un fucking Fabrice Picard, le roi Telet, parce que c'est magnifique. Toute personne censée a déjà lu Quoi qu'il advienne, le jour des corneilles. Et là, c'est un très très beau texte. Le texte très très touchant, Bola, de Pachtis Tassovski, qui est magnifique. Et puis, bah, évidemment, quand on a un chat, on aime son chat. Enfin, Mathieu.
Évidemment, ça je connais bien. parfait, belle sélection. Merci beaucoup Bertrand, encore une fois.
Belle journée à tous.
Très bonne journée, à bientôt.
Ensemble sur Calade.
Allez, bah c'est là-dessus que va se terminer notre émission Ensemble sur Calade. Merci de l'avoir suivi. Elle est évidemment retrouvée en réécoute dès cet après-midi sur radio-calade.fr, rediffusion demain matin à 10h. Dans quelques secondes, vos pages d'information quotidiennes, le journal de RFI, le journal de Sylvie Rosier, et à partir de 14h, attention, ça va être très très jazz. Oui, vous retrouvez Georges Boton pour son émission La 101ème. À 15h, c'est L'Imaginoire. Et à 16h, un nouvel épisode de Funky & Co, l'émission funk, soul et R&B proposée par Ennio. Beau programme cet après-midi sur Calade. Pas mal de musique et de bonnes vibrations. À tout bientôt. Ciao, ciao.
Ensemble sur Calade.